Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Alors, nous sommes ici à Becherel, avec Laurent Houssin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Laurent Houssin, vous êtes illustrateur, BDiste, webdesigner. Vous avez collaboré avec des revues renommées en matière de bande dessinée, à savoir Fluide Glacial, Jade. Vous avez publié King Bling, La vie en rouge, Chiffonné, Les jardins de Rocambole. Et cette bande dessinée qui est parue chez Futuropolis, qui s'intitule Certao, sous-titré « En quête d'agroécologie au Brésil », une bande dessinée que vous avez réalisée avec votre ami Sébastien Carcel. Vous allez justement nous présenter cette bande dessinée, ce travail, ce projet, qui est un projet qui a duré 2 ans et demi, me semble-t-il, 3 ans ?
3 ans.
Tout simplement, est-ce que vous pourriez nous parler du titre « Certao », qui, me semble-t-il, est une région du Brésil ?
Certao, c'est effectivement une région du Brésil qui a été le lieu d'enquête de Sébastien Carcel, avec qui on a coécrit cette bande dessinée. Et donc le titre, c'est « Enquête d'agroécologie au Brésil », mais « Enquête en deux mots ». Parce qu'il y a la... Donc je dirais que c'est le... Il y est allé pour réaliser une thèse sur l'agroécologie au Brésil. Mmh. Et en fait, en même temps, en parallèle de la réalisation de cette thèse, enfin de cette enquête de thèse, eh ben y a une quête de soi. Voilà. Mmh. Donc c'est notre récit. Il met en scène un personnage qui s'appelle Hugo. Donc je dirais qu'il y a un avatar un petit peu inspiré de la vie de Sébastien. L'arrière-plan de cette bande dessinée, donc c'est la thèse sur l'agroécologie. On ne voulait pas faire un récit qui soit autobiographique. Et donc, une des premières étapes de la confection du récit, ça a été aussi de se démarquer de la réalité. Mmh. C'est-à-dire que... Et de se la réapproprier, de la réécrire et de la réinventer. Mais de façon plausible.
Donc, c'est Sébastien Carcel et part justement en... Voilà, en recherche, en enquête dans le champ disciplinaire qu'on appelle l'anthropologie. Et il travaillait donc autour de l'agroécologie au Brésil, comme le titre l'indique. Et vous êtes amis, c'est bien ça aussi. D'où est venue, comment est venue cette envie de travailler ensemble et de travailler sur la thèse de Sébastien ?
Alors Sébastien, je le connais depuis longtemps. En fait, au départ, c'est un ami et collègue de mon épouse, Élise Ducange. Et puis on a suivi un petit peu ses pérégrinations, c'est-à-dire que Sébastien au départ il était prêtre jésuite et en fait il s'est lancé dans cette thèse et donc on a suivi un petit peu son cheminement. C'est après il faut lire la bande dessinée pour voir un petit peu par quoi il est passé, je dirais. Et moi, en 2021, j'ai terminé la bande dessinée Le potager rocambole, que j'avais fait avec Luc Bienvenu. Mmh. Et juste après, en fait, je m'étais dit, c'était un gros travail. Mmh. Il y avait 170 pages, donc je m'étais dit, je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je vais faire juste après. Mais en fait, dans le mois qui a suivi, j'ai eu l'occasion d'assister à la présentation de thèse de Sébastien. Et c'était en visio. Mmh. Alors au début, je suis allé, on avait mis un ordinateur dans notre cuisine pour regarder. Je me suis dit, bon, je vais regarder 5 minutes, puis après je vais y aller. Puis en fait, c'était passionnant. Et j'ai regardé jusqu'au bout, et je me suis dit, en fait, moi, l'écologie, ça m'intéresse. Et là, c'était une façon de prolonger la discussion autour de l'écologie. Mmh. Cette discussion qu'on avait commencée avec Luc pour le potager. Et là... d'élargir cette réflexion à aller dans un autre pays, à parler d'agroécologie et plus de jardinage, c'est-à-dire on partait du singulier, puis maintenant, aller voir comment on fait pour exporter, pour faire du bio et pour nourrir sainement, en préservant l'environnement, mais à une échelle de maraîchage, une échelle planétaire. Mmh. Voilà. Donc, est-ce que on parle de l'agroécologie, moi, je... on en parle comme une alternative. Et ça, c'est des questions que s'est posé Sébastien, justement. Enfin, il s'est posé la question de... Lui, il a une formation d'agronome aussi. D'accord. Et donc, la question qu'il s'est posée, c'est est-ce que l'agroécologie, ça fonctionne? Et est-ce que ça peut remplacer l'agriculture intensive? Donc, c'était un petit peu ça aussi, qu'il est allé chercher au Brésil. C'est-à-dire, c'est d'aller à la rencontre de communautés qui pratiquaient l'agroécologie pour voir si, est-ce que c'est un modèle viable et comment ils font.
Cette BD aussi permet de découvrir le travail d'anthropologue, ce que c'est que l'enquête anthropologique, la démarche anthropologique. On voit notamment son directeur de thèse, Philippe Descola, qui est un anthropologue renommé. Dans cette BD, il y avait cette volonté de montrer aussi ce travail-là d'anthropologue.
Bah, de fait, parce que... On montre l'enquête d'un anthropologue, donc du coup, on explique ce que c'est que l'anthropologie, en fait. Et donc ça, c'était... Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en même temps que j'ai réalisé la bande dessinée, tout en découvrant aussi, finalement, plein de points communs entre ma façon, la façon de travailler, la façon d'aborder une création, la création d'un livre, et puis, finalement, bah, plein de principes de l'anthropologie. C'est ce que me renvoyait Sébastien. Lui, dans son enquête de départ, il était donc il avait vécu cette recherche de ce qu'était l'agroécologie. Et moi, en faisant la bande dessinée, bah, je devais moi-même chercher ce que c'était pour pouvoir le raconter en fait. Donc je devais le comprendre. Et du coup, dans la façon dont moi j'ai compris ou j'ai projeté les choses parfois ou déduit. En fait, c'est là où Sébastien me renvoyait qu'il y avait des points communs entre la façon dont lui l'avait investigué et puis moi, comment je le faisais pour faire la BD. Voilà.
Cette approche anthropologique qui est vraiment d'aller, pour le coup, on le voit dans cette BD, il se rend au Brésil dans un centre qui rassemble toutes les chercheurs et le CAA.
C'est comme une ONG en fait, hein. C'est un peu comme une ONG qui récolte les savoirs agroécologiques et organise des formations pour les redistribuer. Mais en fait, moi ce que j'ai compris, c'est que ces savoirs étaient déjà détenus par les gens, mais qui se perdaient. Donc en fait, du coup, eux étaient là pour garantir, pour mener des actions solidaires. Donc il y avait sur la gestion de l'eau, comment construire des citernes, voilà. Puis
Des semences. Ouais. Dans les différentes régions du Brésil. Et Sébastien Carcel, Hugo, dans la BD, va aussi vivre avec les familles qui mettent en œuvre et en pratique l'agroécologie, enfin des formes d'agriculture écologique.
C'est pas dans tout le Brésil, c'est-à-dire que là on est vraiment sur une région particulière qui s'appelle le Sertão et qui est. Alors c'est une région en partie semi-aride qui est un peu désertique, donc du coup la problématique de l'eau est une problématique importante. Mmh. Et quand on a traité de. Le livre à un moment parle de l'eau. Mmh. Il y a peu de temps en France, on était confronté à ça, je veux dire, à des pénuries d'eau où, ben, en fait, qui étaient assez inhabituelles pour nous, en fait. Je veux dire, moi, je n'ai jamais manqué d'eau, en fait. Et là, de voir que, ben, au Brésil, eux, en fait, c'est une gestion permanente. C'est-à-dire qu'il faut toujours en trouver parce que si on veut faire pousser les choses, en fait, il faut. Donc, il y avait un esprit un peu système D.
Une agriculture faite pour la subsistance alimentaire, l'autonomie alimentaire des familles et des communautés. Et ça, dans un contexte, et on le voit bien aussi dans cette BD, on laissera les lecteurs découvrir, dans un contexte et dans un pays qui est aussi un pays où l'agriculture intensive, l'agro-business est extrêmement puissant. Ce sont aussi, dans cette BD, on voit des gens qui sont militants d'une agriculture écologique et qui sont confrontés aussi à des formes d'agriculture, pour le coup, intensive et assez dure, on le voit. Et on ressent ce contexte-là dans lequel les personnes qui mettent en pratique l'agroécologie doivent aussi lutter pour continuer à exister.
Oui, en fait, Sébastien m'a expliqué que qu'au Brésil, l'agroécologie est un mouvement social, en fait. Donc, je veux dire, donc forcément que c'est un... Voilà, ça, c'est un engagement de la part des gens qui pratiquent et puis qui va bien au-delà de la production de légumes. Voilà, donc il y a aussi un modèle derrière. Et donc, ben, moi, forcément, que je ce sont des idées auxquelles j'aspire, je dirais. Et puis, je pense que Sébastien aussi. Et enfin, je suis même sûr. Alors, moi, j'ai pas de réponse. Hein, je veux dire, c'est mais je suis curieux et ça, ce qui m'intéresse, c'est aussi de poser des questions. Et j'espère bien que certains, je dis certains parce qu'en français on dit certao et en portugais on dit certains. Pose des questions aux gens et les voilà.
Dans cette BD aussi, on voit un parcours personnel aussi de la part de Sébastien Carcel, à savoir Hugo dans la BD, qui traverse lui-même, question on peut le dire, existentielle, sans trop en dire.
Bah c'est là où on s'est... donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis co-scénariste de l'histoire, donc où est-ce qu'on se retrouve sur un récit comme celui-là, sachant que je dirais que le contenu... didactique, c'est vraiment Sébastien qui en a la maîtrise. Donc là où on s'est retrouvé, c'est sur ce personnage de Hugo qui est en quête de lui en fait et qui se pose la question de du sens de sa vie tout simplement et qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie que le monde change et qui comprend que pour cela il va falloir que lui bouge. Ouais. Et c'est ce qu'il va faire, il va se mettre en mouvement.
Alors, dans ce travail, justement, il y a aussi clairement votre patte de dessinateur qu'on retrouve, et voilà, qui surprend. Comment, justement, en tant que dessinateur, vous avez abordé ça? C'était de manière...
De manière très intuitive. Ouais. C'est-à-dire que je... Alors, il y a quand même une contrainte forte, hein, qui est celle de... On est sur ce qu'on a un format type roman graphique, donc on est sur une pagination. Là, on est à plus de 215 pages. Donc, c'est comme un... Moi, j'ai fait... plus jeune, j'ai fait beaucoup de sport, en fait, et de la course. Et là, en fait, là, quand on fait un roman graphique comme ça, on est sur une espèce de marathon. Donc déjà, on sait que... on a un temps imparti et qu'il va falloir répartir les choses et doser les choses pour arriver à notre objectif. C'est-à-dire que chaque page, j'aurais pu y passer 10 fois plus de temps. Mais qu'à un moment, en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce récit, c'est l'histoire. Donc, moi, mon dessin, il est pas là pour que les gens s'arrêtent pour dire il dessine bien Laurent Cousin, c'est vraiment beau. Non, il est là pour faciliter la lecture, il est là pour que les gens rentrent dans l'histoire et qu'ils aillent jusqu'au bout de cette histoire, mais avec facilité et puis avec intérêt surtout. Voilà, donc c'est. Donc après, quand je dis intuitif, c'est. Mes récréations dans l'histoire, c'est les moments où le personnage il est dans des situations, je veux dire, émotionnellement très fortes. Donc du coup, qui m'autorise des espèces de digressions graphiques où là, je peux sortir d'un style de dessin semi-réaliste avec qui a l'exigence, où il faut qu'on reconnaisse tous les personnages, etc. etc. Donc, mais même quand je fais ces digressions, on reconnaît les personnages. Sauf que, il faut qu'elles soient justifiées, parce que si je digresse à chaque page graphiquement, je vais fatiguer mon lecteur, il va rien comprendre, en fait. Faut
que c'est un sens. J'imagine que vous êtes projeté aussi dans le vécu de Sébastien Carcel, et forcément à travers ce personnage d'Hugo, qui est une projection, justement, de Sébastien.
Complètement, parce que tout à l'heure, quand je disais... quand j'évoquais la question du sens et que si on veut que les choses bougent, il faut commencer par changer soi. Ça, c'est une question que je me pose. Et le fait, avant de faire le potager rocambole, je travaillais dans les profils glaciales. J'étais sur des formats très courts. On était plus sur de l'humour. Alors moi, j'adore ça, hein, c'est très bien. Mais le roman graphique m'a donné l'occasion de donner du sens, en fait, et puis d'aller de questionner les choses, parce que quand on fait un travail de longue haleine comme ça, on est obligé d'aller s'intéresser aux choses. Donc déjà, ça, c'est un premier truc pour moi. Puis après, de me mettre en conversation avec les gens, c'est-à-dire que c'est aussi de les questionner. Mm-hmm. Et puis d'inviter les gens à se questionner, en fait. Mm-hmm. Donc du coup, je dirais que la quête de sens de Hugo, ben, moi, c'est aussi la mienne, en D'accord. fait. Donc, et c'était aussi celle de Sébastien. Mm-hmm. Donc c'est ça notre point commun, et c'est ça notre accroche commune pour écrire ce récit, pour l'avancer.
Mm-hmm. Dans ce récit, justement, on voit la multiplicité des rencontres de Hugo, le personnage qui va jusque dans les campagnes du CERTAO en tant qu'anthropologue, en tant que chercheur. Finalement, vous avez aussi vous-même, comme vous le dites, vous êtes en train de vous vivez à travers ce personnage et vous participez, vous voyagez avec lui et vous rencontrez les mêmes doutes existentiels, j'imagine, en faisant. De cette dimension sensible, vous participez. Il y a vraiment une approche sensible entre le travail de l'anthropologue et le dessinateur dans quelque chose qui est de la rencontre avec ce qui n'est pas soi, pour le coup, l'altérité des communautés et le commun aussi.
C'est ce que dit Sébastien, c'est ce qu'il me disait, c'est ce qu'expliquait Sébastien. À un moment, moi, j'expliquais un truc, j'ai dit, tu vois, quand je ne sais pas quoi faire, en fait, je me dessine, et je me dessine en train de me dire, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire ? Mm-hmm. Et en fait, d'un seul coup, ce qui se passe, c'est que ça déclenche quelque chose. Et ça engage une conversation avec moi, mais qui démarre sur le papier. Alors, Sébastien me disait, mais c'est dingue, parce que c'est aussi, en anthropologie, on parle de méthode réflexive, c'est-à-dire qu'on va, finalement, on ramène les choses à soi, quand on est dans des questionnements ou dans des impasses, on ramène les choses à soi pour se demander, on se pose les questions à soi, par rapport à ce qu'on vit sur le moment.
C'est un travail d'écriture, pour le coup, on voit aussi dans le récit que le travail d'anthropologie, et il l'est dit au début, c'est beaucoup d'écriture où l'anthropologue note ce qu'il peut voir, ce qu'il peut vivre et ce qu'il observe autour de lui, les communautés dans lesquelles il participe. Et finalement, c'est aussi la même démarche pour l'illustrateur.
Oui, c'est ça. En fait, alors après, moi, j'intériorise plus les choses aussi. Je veux dire, je me constitue, mais je pense que tout le monde le fait. Hein. Après, moi, je le développe parce que c'est mon outil de travail, mais je me crée des banques aussi d'émotions, en fait, aussi de ressentis. Dessiner, c'est surtout quand on parlait d'illustration. Dessiner pour aller dans le sens du récit, c'est parfois aussi remplacer les mots par des émotions et qui sont des relais qui permettent à la personne de comprendre en fait dans quelle direction il peut aller ou où on veut l'emmener en fait, voilà. Mais c'est on peut expliquer de façon théorique avec un vocabulaire très compliqué les choses, puis après on peut aussi aligner trois dessins et puis là, il y a un ressenti qui se produit, en fait, qui va dans enfin voilà, qui raconte la même chose, en fait.
À travers le dessin.
À travers les émotions, en fait, finalement, les émotions ressenties en voyant le dessin. Parce que ça peut être aussi un aplat de couleurs, ça peut être... C'est plastique, en fait. Hein.
Dans le récit, on voit bien que, aussi, Hugo est une personne qui laisse peu passer d'émotions, finalement, et qui s'ouvre peu à peu. Et finalement, ce travail-là fait partie de la démarche.
Oui, parce que comme je disais que le récit était inspiré de son propre récit, et qu'on ne voulait pas faire un récit autobiographique. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de pudeur, je veux dire. Et donc, c'était important de transposer les choses. Et donc, la meilleure façon de les transposer, c'est moi en me les appropriant. C'est-à-dire que c'est un moment de dire, ça, c'est pas toi, Sébastien, c'est moi qui te raconte ça. Et même si c'était la même chose que ce qu'il racontait. Mais du coup, moi, je le racontais avec mes mots. Mais lui, il ne m'a pas dit, à un moment, je me suis mis dans tel état, il s'est arrivé telle chose. Il n'a jamais dit ça, en fait. Mais c'est moi qui l'ai extrapolé. Et après, il me disait, Ben, en fait, c'est fou parce que les choses sont passées comme ça. Mais c'est pas. Et du coup, ça l'a aidé aussi, peut-être. En tout cas, lui, ça l'a mis dans une démarche d'écriture qui était différente. C'est-à-dire que aussi de parler plus avec un élan du cœur, quoi, je veux dire. Voilà.
Cette logique du vivant aussi se fait, je veux dire, la culture de la terre du vivant est aussi une culture de soi. On le voit quand même dans les personnages aussi. En même temps qu'il y a une culture des plantes, les gens se cultivent eux-mêmes en tant que tels dans leur rapport aux autres, aux vivants, à l'environnement.
Oui, bah, je pense que c'est le ça parle de personnes. L'agroécologie, c'est un rapport au vivant qui respecte le vivant, donc bah, qui se respecte soi et puis qui respecte les autres et l'environnement. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'écoute et enfin à l'écoute en se mettant en dialogue justement avec cet environnement. Et puis donc c'est un dialogue parfois qui est enfin avec les plantes, je dirais, qui est intuitif, qui est dans l'ordre du ressenti, quoi. Moi j'y crois, ça, en fait.
Au Brésil, on perçoit aussi une forme comme ça où les gens parlent, sont en discussion avec les plantes qu'ils cultivent.
Bah, la spiritualité, c'est-à-dire que le comment qui n'est pas que religieuse, en fait, qui est aussi pour moi bah, c'est un rapport au monde, en fait, voilà, et au vivant. Et donc oui, j'ai eu en dédicace des retours un monsieur qui est venu me voir en me disant que son fils faisait de l'agroécologie au Brésil, donc dans ces régions-là, et qui me racontait. Il dit, ouais, c'est comme dans votre bande dessinée. Et lui, en fait, avant d'aller cultiver la terre, il va lui parler, en fait. Il dialogue avec sa terre, en fait. Mais pourquoi pas, je veux dire, après, c'est.
Sébastien Carcel, donc, a ramené cette étude anthropologique en France, cette enquête. C'est singulier comme démarche de la part d'un scientifique que de la traduire en bande dessinée, pour le coup.
Oui, tout à fait.
C'est un moyen aussi de démocratiser. Enfin, ou de faire connaître le travail scientifique, pour le coup, aussi.
Tout à fait. Moi, je pense que c'est un enjeu, hein, de la bande dessinée. C'est que, alors après, les personnes qui ont envie d'approfondir le sujet, ben, je les invite à aller lire la thèse, en fait, hein, je veux dire, qui est passionnante. Oui, la bande dessinée, ça a été pointé. Alors, Sébastien, il bosse au CIRAD, et donc aujourd'hui, il est à cheval entre la France et le Brésil. C'est son boulot. Donc, il est en contact aussi avec le monde de la recherche, je dirais. Et le CERTAN, ça intéresse beaucoup les gens parce que c'est un outil, en fait. Je veux dire, en tout cas, c'est comment on transforme un savoir en bande dessinée pour le partager au plus grand nombre, quoi.
La part scientifique, pour le coup, et c'est une rencontre entre la science et l'art ayant pour effet aussi de rendre sensible ce qu'est le travail des scientifiques, et notamment des anthropologues, pour le coup.
Mais je pense que la science, elle a besoin du sensible, en fait, pour pouvoir, pour imaginer, pour projeter, pour. Oui.
Ce livre-là, donc, est publié en français, mais me semble-t-il, il a un avenir en portugais. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Puis au Brésil, me semble-t-il.
Alors, 2025, il y a une saison France-Brésil qui est organisée, donc par l'Institut français, en l'occurrence, et puis bah, la France et le Brésil. On a déposé un dossier qui a été d'exposition autour de Sertan, qui a été retenu pour la seconde partie. Donc Sertan va exister sous forme d'une exposition, donc qui va reprendre ses grandes lignes et ses thèmes au Brésil, dans le deuxième semestre de 2025. Donc on est amené à concevoir cette exposition, et puis aller sur place pour aller la monter, et puis elle sera itinérante et elle va se déplacer. Donc ça, bon, c'est fabuleux, hein. Je veux dire, c'est une chance de pouvoir C'est une interprétation, je dirais. Je veux dire, c'est l'exposition, c'est pas un copier-coller de planches, hein. C'est presque une réécriture, qui est spécifique, parce que là, pour le coup, les gens vont pas avoir un livre dans les mains, ils vont avoir une exposition. Il y aura une déambulation, il y a un déplacement, il y a un rapport physique avec les œuvres, avec les textes, etc. etc. Mmh. Donc c'est génial, parce qu'on va pouvoir prolonger, sans doute même aussi rajouter des choses qu'on n'a pas pu mettre dans la bande dessinée parce que elle s'y prêtait pas, alors qu'elle c'est, je veux dire, des choses qu'on peut transmettre qui se prêtent à une exposition parce que ça fait partie des spécificités de l'exposition. Donc tout ça au Brésil, tout ça en brésilien, en portugais, et donc il y aura aussi une version alors brésilienne de la bande dessinée.
C'est une manière aussi, j'imagine, pour Sébastien Carcel de rendre visibles toutes ces personnes qu'il a pu rencontrer. Et là, pour le coup, à travers une exposition, il y a aussi un retour de sa part vers les personnes qu'il a pu rencontrer et qu'on retrouve dans cette BD.
Ben complètement, hein, parce que je pense que Sébastien, c'est quelqu'un qui est redevable de tous ces gens-là, de ce qu'ils ont partagé avec lui. Dans la BD, il est accueilli par ces gens, en fait. Hein, je veux dire, il n'est pas là pour... la thèse, c'est l'objectif premier, et en fait, finalement, c'est la conséquence. Mais entre deux, il se passe plein de choses, et ce qui se passe surtout, c'est beaucoup de rencontres. Et je crois que... Pour lui, c'est aussi important qu'à un moment, les protagonistes, hein, de ce récit puissent avoir un retour et puis voir un petit peu ce qu'on a fait de cette bande dessinée, enfin de leur récit, et puis qu'on partage, hein, je dirais, qu'il les fait rayonner, en fait, parce qu'ils en ont besoin aussi.
Toute cette quête de la part de Sébastien Carcel, et avec votre travail, finalement, donne un fruit qui est aussi une bande dessinée, pour le coup. Ah, c'est un des fruits de cette quête, en tout cas.
Oui. Là, un livre, c'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est ce qu'il transporte, hein, c'est ce qu'il véhicule, c'est qu'est-ce qu'il a à dire, en fait. Et donc voilà, ça c'est voilà pour rebondir encore une fois sur la quête de Hugo, qui est aussi ma quête en fait, et puis qui est aussi celle de Sébastien, et puis qui je le pense devrait être celle de tout le monde en fait. Voilà, je veux dire, et tout le monde à chacun à son échelle, hein, je veux dire, c'est pas, il y a pas de modèle, mais je crois que c'est important qu'aujourd'hui on se réapproprie aussi nos vies, notre destin, pour pouvoir faire bouger les choses.
Eh bien, merci, Laurent Houssin, pour cet entretien. Donc, autour de cette bande dessinée dont vous êtes co-auteur, avec Sébastien Carcel, intitulé « Certao, enquête d'agroécologie au Brésil », un livre publié chez Futuropolis. Merci à vous.